Bonsoir. Trois thèmes sont retenus pour la tribune de la presse de ce soir. D'abord, nous parlerons des retombées de la visite du patron du Fonds monétaire international à Kinshasa. Comme vous le savez, le gouvernement Mouzito a promis d'arracher un nouvel accord formel avec le FMI d'ici juillet 2009. Et puis, l'entreprise de chemin de fer SNCC, où 2000 agents vont s'installer à la RSS, cela après des discussions à Lubumbashi cette semaine entre les comités de gestion de cette société et la délégation syndicale. Et enfin, pour terminer, nous allons analyser ensemble les conclusions du symposium de la société civile tenu à Kinshasa pendant 3 jours, du lundi à mercredi dernier. 3 confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Fidel Moussangou, co-donateur du quotidien Le Phare, un journal paraissant à Kinshasa. Médard Mbouyal Mangal, journaliste de la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTC en sigle, et Jean Dombassi, directeur de la radio communautaire de Mwanda au Bas-Congo. Mais avant de commencer ces débats, d'abord, on écoute la revue de presse avec Alain Erung. Question de voir comment les journaux quinois ont analysé les 3 thèmes de ce soir.
Bonsoir. Par rapport au sujet retenu pour cette tribune de presse, entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international, c'est désormais le dialogue des sourds, déclare le potentiel. Pourtant, l'on pensait qu'avec la présence à Kinshasa de Dominique Strauss-Kahn, directeur général du FMI, l'horizon devait s'éclaircir dans les rapports parfois tumultueux qui caractérisent les deux parties depuis la fin brutale du premier programme qui les liait en mars 2006. Le contrat chinois va être rediscuté, c'est l'annonce faite par l'Observateur. Le journal écrit que dans la foulée de la visite du directeur général du Fonds monétaire international à Kinshasa, le gouvernement de la RDC va renégocier le contrat conclu avec la Chine. Et au lieu d'annoncer en ce qui concerne les contrats chinois, l'ambassadeur chinois en RDC affirme « Nous n'arrêterons pas ». En rapport avec les 2000 agents de la SNCC qui seront mis à la retraite, résultat des discussions à Lubumbashi entre le comité de gestion de cette société et la délégation syndicale, la plupart des journaux chinois n'ont pas repris ce sujet. Par contre, ils se sont penchés sur la rencontre entre l'intersyndical et le Premier ministre Adolphe Mouzito concernant la transformation des entreprises publiques. Dans ses colonnes, Le Phare écrit « La société civile en symposium de refondation », ce dans le but de mieux intégrer les dynamiques associatives du pays dans la mise en œuvre du DCRP. Étalant presque le même contenu, la tempête des tropiques note pour sa part « La société civile réfléchit sur sa refondation ».
Merci Alain pour cette revue de presse. On va émettre un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Jean Lombassi, nous allons commencer avec vous. Vous êtes directeur de la radio communautaire de Mwanda au Bas-Congo. Et comment l'actualité a été analysée cette semaine dans votre province, le Bas-Congo?
Oui, dans notre, d'abord, pour à tous les auditeurs de la radio Kabi, dans notre province, le Bas-Congo, d'une façon générale, les résultats se sont beaucoup plus focalisés sur la fin brutale d'abord du premier programme en 2006 et puis cette situation qui va mal entre la République démocratique du Congo et cette institution de Bretton Woods qu'on appelle le Fonds monétaire international.
Merci Fidel Moussangou, vous êtes coordonnateur du quotidien Le Phare. Et est-ce qu'il y a une certaine objectivité dans la manière dont la presse écrite a abordé les différentes informations?
C'est ce que nous avons conscience de constater que depuis un certain temps, tous les moutons noirs ont commencé à disparaître les uns après les autres. Cela montre que l'UNPC a rempli donc son contrat, sa part du contrat dans la refondation de la presse congolaise. Et même les journaux paraissant à Kinshasa, les journaux à périphérique sont de moins en moins produits, parce qu'on ne les achète plus. Ce qui fait que maintenant, la presse responsable, les organes de presse écrite qui sont restés sur le marché, maintenant commencent à privilégier l'objectivité dans le traitement de l'information. De temps en temps, il y a des dérapages, moins ou moins, l'information est traitée avec objectivité. Parce que les commentaires, ça, c'est l'affaire de chaque organe. Au moins pour cela, parfois nous tombons d'accord, nous trouvons le matin, 4-5 titres ont traité sur le même objet. Quand Strauss-Kahn était ici, tout le monde a parlé de Strauss-Kahn. Et on a respecté l'objectivité, on s'est réservé d'aller dans des commentaires un petit peu élogieux ou flatteurs.
Merci Médar Mbouyal Mangal, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTP en Afrique. Et y a-t-il, selon vous, une information importante qui n'a pas été évoquée dans la presse de cette semaine?
Une information importante qui n'a pas été traitée?
À votre avis?
Non, je ne pense pas, parce que, comme on a dit, que la société congolaise est restée un peu bloquée, sinon accrochée à l'idée de la signature d'un accord avec le Fonds monétaire international. Alors, dès lors que le directeur général du Fonds monétaire international était à Kinshasa, tout a été fait pour que tous les médias puissent davantage donner de l'information. Et ce que nous avons retenu, c'est que le Dominique Strauss-Kahn a dit et redit qu'il fallait à la République démocratique du Congo beaucoup d'efforts pour parvenir à cet objectif. Vous vous souviendrez que c'est qu'il a dit, il faut beaucoup travailler. Et je me dis, de ce côté-là, il faut que nous puissions justement, nous, en tant que médias, nous puissions davantage analyser, qu'on puisse davantage créer. Qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup travailler. C'est vrai, vous avez suivi en direct la conférence de presse conjointe entre le Premier ministre et le directeur général du SNI. Mais je me dis, il va falloir qu'on travaille, il faut qu'on pose sur l'opinion publique, et surtout les dirigeants, à ce que les choses aillent le mieux.
Merci Mbouyal Mangal. Premier thème de la tribune de ce soir, retombée de la visite du patron du Fonds monétaire international à Kinshasa. Le gouvernement congolais promet d'arracher un nouvel accord formel avec le FMI d'ici juillet 2009. Mais commençons d'abord par cette actualité. 40 millions de yuan chinois, soit près de 6 millions de dollars américains, tel est le montant du protocole d'accord que la RDC et la Chine ont signé hier à Kinshasa. C'est à l'issue de la 8e session de la commission mixte RDC-Chine qui s'est clôturée ce jeudi au Grand Hôtel que ce protocole d'accord a été signé. Un petit commentaire par rapport à ce protocole conclu entre les deux pays. On commence avec vous, Fidèle Moussangou.
Bon, vous savez, nous sommes de plus en plus dans cette gymnastique de protocole à gauche pour un 6 millions de dollars, ainsi de suite. Non, je crois qu'il faut qu'on nous prenne au sérieux. J'ai l'impression que les autorités ne veulent pas qu'on nous prenne au sérieux. Qu'est-ce que c'est 6 millions de dollars pour acheter des vaccins?
Pourquoi on ne veut pas qu'on nous prenne au sérieux?
Mais nous sommes un pays avec 65 millions d'habitants, un pays de 2 millions 500 000 km², un pays qui a tout, et un pays qui a les réserves d'eau. Il faut savoir que la guerre prochaine, ce n'est pas la guerre du coltan ou du diamant, c'est la guerre de l'eau. Alors, il faut qu'on nous prenne au sérieux. Il faut, quand nous allons négocier, qu'on ne nous prenne pas comme on prend le Rwanda, ou le Burundi, ou la Tanzanie, ou le Swaziland. Non. Nous sommes la plus grande puissance au monde en matière de d'eau, en matière de minerie. Alors, il faut que, quand nous négocions, pas pour 6 millions, avec des images, on trimballe ces rênes jusqu'à la présidente de la République, non, nous pouvons produire les 6 millions de dollars. Eh bien, quand on donne un don, il faut commencer par 1 milliard, ou bien 500 millions, pas 6 millions, c'est rigolé. Et puis, ces gens-là vont chez le chef de l'État, bon, ça, c'est pour rigoler.
Merci, Fidel Moussangou. Jean Dombasi, n'est-ce pas que ce protocole d'accord tombe à point nommé? C'est au moment où la RDC a besoin des beaucoup d'argent pour en fait relancer son économie.
Bon, en tout cas pour le moment, vous savez que notre pays traverse une période difficile. Si quelque chose est piste de l'extérieur, je pense que nous ne pouvons que nous en réjouir. Bon, l'essentiel est que cet argent soit bien utilisé pour arriver quand même à remplir un objectif qui va dans le cadre de l'amélioration du vécu quotidien de la population congolaise. Mais sinon, on ne refuse pas. C'est une bonne chose, une population.
Mouyal Mangal, ces 6 millions de dollars sont destinés à financer des projets de développement. Quels sont, selon vous, les secteurs qu'il faut privilégier?
En République démocratique du Congo, tout est prioritaire. Et généralement, lorsqu'on se trouve à partir de Kinshasa, on a tendance de croire que toute la République, c'est à Kinshasa. On a tendance de croire que toute la République, c'est la ville de Lubumbashi, ses environs, ou à la limite, la ville de Kisangani. Mais moi, j'appartiens à un espace où ni un ministre national n'est jamais arrivé. Je ne me souviens pas dans ma vie qu'il y ait eu un ministre national qui soit parti de Kinshasa jusqu'à arriver à Tshibala, qui organise le mois de août au Kasaï occidental, dans le territoire de Kasumba. Là, je n'ai jamais vu, parce que j'ai étudié là-bas, je n'ai jamais vu un ministre national arriver dans ce coin. Ça veut dire, dès qu'il y a un problème, vous allez vous arranger entre vous-même. Personne ne viendra à votre secours, surtout que l'espace médiatique ne couvre pas non plus. Donc, ça veut dire tout est priorité, la santé, même l'école. Parce qu'il y a des milieux en République démocratique du Congo où, par exemple, pour avoir accès à la scolarisation, il faut aller placer la poule, il faut remettre la poule à un enseignant, il faut amener des manioc ou le maïs à la limite. Donc je crois que tout vaut.
Merci. Revenons à la visite à Kinshasa du directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn. Celui-ci a affirmé que la RDC devrait encore attendre quelques semaines, voire quelques mois, avant de conclure un nouvel accord formel avec le Fonds monétaire international. Principale cause, les contrats chinois dans leur format actuel. Pour Dominique Strauss-Kahn, il reste à trouver des modalités techniques qui n'alourdissent pas la dette intérieure. Pour sa part, le Premier ministre congolais a indiqué que son gouvernement va travailler urgemment pour arracher un nouvel accord formel avec les FMI d'ici au plus tard juillet 2009. Les propos d'Adolphe Mouzito sont recueillis par Nazaire Nkoko.
Le gouvernement veut et a d'ailleurs déjà commencé à discuter avec les amis chinois pour des réajustements possibles de manière à rendre compatibles ces contrats avec les conditionnalités aussi bien du FMI que des bailleurs bilatéraux. D'ailleurs, nous ordonnons aussi un travail, nous avons engagé les FMI à nous accompagner à ces sujets. Mais aussi, le gouvernement est disposé, avec l'accompagnement du FMI, de discuter avec nos partenaires bilatéraux traditionnels, de manière à le rassurer que nous échangeons et que nous sommes en train d'avancer. Nous avançons et nous voulons bien que nous entrions en programme sans particulièrement attendre les sujets de solidarité. Pour cela, nous allons lever un certain nombre d'options au niveau du gouvernement, en discussion avec les partenaires bilatéraux, mais aussi avec nos amis chinois, pour que plus ou moins les garanties soient accordées de manière à ce qu'on entre en programme dès juin et juillet.
En réaction, l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo, cité par le quotidien L'Avenir, dit « Nous n'arrêterons pas ». Selon lui, il est contradictoire de voir les institutions internationales et les pays occidentaux s'intéresser aux réserves financières de la Chine et tenter en même temps de nous bloquer en Afrique et plus particulièrement au Congo. Fin de citation. Jean Gombassi, directeur de la radio communautaire de Moanda au Bas-Congo, comment peut-on analyser cette situation?
Oui, d'abord, moi, je me pose une question de savoir pourquoi les contrats chinois doivent demeurer un point névralgique des négociations menant au PEGD en République démocratique du Congo. Vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, est un pays libre, indépendant et souverain. Pour notre développement, nous sommes libres d'embrasser n'importe quel partenaire du monde. Ce qui est essentiel pour les peuples congolais, c'est les routes, les autoroutes, les hôpitaux, les grandes constructions, tout ça. Les richesses de notre pays nous appartiennent. Même si nous sommes partis signer le contrat avec les Chinois, je pense qu'il n'y a pas un péché là-dessus. Tout ce que nous voulons au Congo, c'est le développement de notre pays. C'est tout. Nous n'avons pas de leçons à recevoir auprès des institutions de Bretton Woods. Et puis moi, je me demande, le directeur du Fonds monétaire international est venu au Congo en tant que fils, en tant que directeur d'une institution ou bien en tant que porte-parole des Occidentaux. Mais moi, je pense que le contrat chinois ne peut pas demeurer un point névralgique pour finaliser un accord avec le Fonds monétaire international.
En fait, le Fonds monétaire international n'est pas contre les contrats chinois. Le problème, c'est que nous sommes dans un processus qui, s'il aboutissait, va permettre aux Congolais de bénéficier de la suppression d'une grande partie de sa dette. Et pensez-vous qu'il faut continuer à s'endetter pendant que nous sommes déjà engagés dans ce processus?
Bon, moi, je pense que comme on est déjà dans ce processus-là, c'est au niveau du Premier ministre et de ses collaborateurs, ces différents pays, de voir s'il faut rapidement retoucher ce contrat. Mais moi, je pense que ce n'est pas vraiment important pour le pays. Ce n'est pas important.
Merci, Jean Gombassi, Fidèle Moussango, coordonnateur du quotidien Le Phare. Et comment peut-on faire cohabiter les contrats chinois avec un accord formel avec les FMI?
Bon, je pars d'abord d'un constat. qui démontre quelque chose, que quelque chose ne va pas dans ces comptes. Le Fonds monétaire vous dit, j'ai 500 millions de dollars et je le mets sur 5 ans. Les Chinois vous disent, nous avons 9 milliards de dollars contre minerai. Et depuis que ce contrat a été signé avec les Chinois, c'était une sorte de levée de bouclier dans toute la classe politique, même au niveau de la majorité. Les gens ont demandé de voir bien ce contrat. Le gouvernement a refusé de rendre public ce contrat. Même le ministre des Travaux publics s'est même énervé jusqu'à manquer de respect au Parlement lorsqu'il était interpellé à ce sujet. Alors, les Occidentaux ont commencé à travers les ambassades à toucher, donc à essayer d'avertir les Congolais que ces contrats chinois contenaient des clauses qui allaient aliéner l'indépendance du Congo pendant des années. Donc, d'après les Occidentaux à l'époque, quand les contrats chinois étaient signés, 9 milliards, c'est pour produire 100 milliards, même dans 20 ans. Donc, nos descendants allaient se trouver liés vis-à-vis de la Chine, entre 9 milliards de routes, de écoles à gauche à droite. Donc, ce n'est pas un contrat win-win qu'on a dit. Ça, c'est ce que les Occidentaux ont dit. Et c'est ce que l'opposition politique avait dit. C'est ce que certains membres de la majorité avaient dit, mais en dehors du micro. Oui, en dehors des caméras. Et aujourd'hui, je suis étonné de voir que Dominique Strauss-Kahn arrive à Kinshasa, il parle comme l'opposition, et le gouvernement ne réagit même pas. Au contraire, le gouvernement reconnaît qu'ils vont commencer à rediscuter avec les amis chinois. Donc, il y a un goût sur roche.
Mais lorsque le Fonds monétaire pense qu'il ne faut pas s'endetter davantage pendant qu'on est déjà engagé dans les processus PPT, le Fonds monétaire n'a-t-il pas raison?
Non, le problème est celui-ci. Si réellement c'est un contrat win-win, 9 milliards de dollars contre 9 milliards d'infrastructures, le Fonds monétaire n'a jamais levé le ton. C'est parce que dans un contrat, il y a des clauses léonines graves qui vont aliéner le pays à une dette énorme. Nous avons une dette de 12 milliards héritée de Mobutu. Mais maintenant, si le Fonds monétaire, ce n'est pas de la charité. Et puis, l'actuel directeur général, c'est un socialiste. Donc, en principe, il devait être l'allié naturel des Chinois qui sont des socialistes. Mais il attaque ces contrats. Il dit oui, les contrats chinois sont bons, mais il faut renégocier certaines clauses. Et ce sont ces clauses qui sont mortelles. Et ici, le gouvernement, par la bouche du Premier ministre, reconnaît ça en disant que nous allons renégocier avec nos amis chinois. Ça dit qu'il a fallu que Strauss-Kahn arrive pour nous réveiller. Non, c'est parce que le gouvernement, ceux qui ont négocié et qui ont engagé le gouvernement, ont négocié un mauvais contrat. Parce que l'opposition l'avait dit. Le gouvernement à l'époque a même refusé de rendre public ces contrats. Mais par des voies contournées, on est tombé sur ce contrat. Cela, on a découvert des clauses mortelles, des clauses assassines. Que Dominique Strauss-Kahn se soit déplacé pour ça. Il est venu pour ça, c'est vrai. C'est qu'il y a un danger mortel pour nos générations futures. Et puis, bon, la preuve, ça fait depuis quand on parle des contrats chinois, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on bouge des trous à gauche à droite, on essaie de réflexionner, mais là, c'est pas le contrat chinois, on bouge des trous ici, bon, on essaie de remonter, mais écoutez, Mangala vient de dire, j'ai lu à Tshibala, que je connais bien, on n'a jamais vu un ministre, on n'a ni national, ni provincial, alors, les contrats chinois, c'est pour quand? Et quand on voit même le côté de la République qui vont profiter de ces contrats, ce n'est pas l'Ouest, c'est le centre, c'est l'Est. Le Katanga, le Nord, le Sud, Kivu, Maniema et la province orientale. Alors là, écoutez, non, ce n'est pas sérieux.
Merci, Fidel Moussangou. Mesdames, Mouyal Mangal, donc la seule façon de faire cohabiter les contrats chinois avec un accord formel avec le FMI, c'est de renégocier les contrats chinois. C'est votre point de vue?
Moi, je dis, il n'y a pas de problème. C'est peut-être un défi pour la République démocratique du Congo de mieux analyser, de mieux préparer, d'avoir un personnel compétent, qualifié, pour pouvoir négocier. Il semble qu'en République démocratique du Congo, on n'a pas de vrais négociateurs. Dans la plupart des cas, nous subissons des documents qui nous sont soit proposés parce qu'on n'a pas le temps d'analyser. Nous devions justement profiter des faiblesses constatées à travers les contrats chinois pour que nous puissions requalifier les choses, nous puissions véritablement nous définir nos ambitions par rapport à notre responsabilité. Nous sommes un grand espace géostratégique. Mais est-ce que dans notre manière de faire les choses, dans notre manière de faire la politique, dans notre manière d'apporter l'information en tant que jeunesse, est-ce que avons-nous conscience de ces défis à relever? Avons-nous de la compétence pour pouvoir qualifier, négocier? Ça c'est un défaut. Il va falloir que justement la République se lance dans ce contexte, certainement grâce ou à cause de contrats chinois. Demain, nous pouvons nous présenter quelque part comme des gens respectables. C'est vrai, on a donc commis des erreurs de parcours, mais il faut justement renégocier pour bien rebondir.
Même s'il faut renégocier, une petite réaction par rapport à ça, même s'il faut renégocier ces contrats, et pensez-vous que les partenaires chinois seront d'accord? Parce que déjà, l'ambassadeur de la Chine en RDC réagit, il dit « nous n'arrêterons pas ». Est-ce que vous pensez qu'ils seront disposés à renégocier ces contrats?
Écoutez, les mines sont une propriété du Congo, ce n'est pas un sujet de mines. C'est une question de courage politique et aussi de réalisme politique. Il faut faire comprendre aux Chinois, monsieur, regardez ce contrat. Oui, nous l'avons signé, mais voici cette clause. On ne demande pas, Strauss-Kahn n'a pas demandé à ce qu'on puisse rejeter le contrat chinois, non. Il a dit que le Congo a autant besoin des infrastructures qui vont être générées par ces contrats chinois que du programme PPTE. Il a dit ça ouvertement. Mais il faut enlever les clauses léonines, mortelles, assassines. Et on peut se comprendre aux Chinois. Et là, c'est là qu'il faut trouver de bons négociateurs. Et ensuite, il faut éviter d'afficher cette attitude de pauvres et de mendiants. Nous ne pouvons pas être mendiants. Nous avons les mines, nous avons l'eau, nous avons l'air, nous avons du bois. Nous vous dites, monsieur, vous n'êtes pas d'accord, partez avec monsieur. C'est, attention, monsieur l'ami, c'est parce que ceux qui ont négocié ces contrats, ils ont touché ce qu'on appelle le pas de porte. C'est $1 million. Maintenant, ils ont mangé, ils ne savent plus vomir, et les Chinois les tiennent par là. Voilà la réalité.
Merci. Jean-Domassi, et si les Chinois refusent de renégocier ces contrats, comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC?
Bon, moi je pense que je n'ai pas lu ce contrat, je ne sais pas s'il y a une clause qui permet quelque part qu'on puisse renégocier ou bien redéfinir, mais moi je pense que si la partie chinoise refuse, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, je pense que le pays ne va pas arrêter. Mais dans tout ça, il faut qu'il y ait une solution concertée. Sinon, au cas contraire, la situation est chaotique. Parce que de notre côté, le Fonds monétaire international va continuer à suivre sa position. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec le temps.
Oui, en une minute, Médard Mbouyal-Mangal, est-il possible de se passer de ces désaccords, l'accord avec les FMI, les contrats chinois? Est-ce que l'avenir de la RDC en dépend?
Le Fidel Moussang l'a dit, nous sommes un pays avec beaucoup de potentialité. Aujourd'hui, sur le plan de l'environnement, personne ne peut se passer de la vie démocratique du Congo. Du fait que nous détenons des forêts les plus importantes et qui participent à la régulation du climat à travers le monde. Et ça, c'est un point important. Au niveau de l'eau, on ne peut pas se passer du bassin du fleuve Congo. Et aujourd'hui, le fleuve Congo lui-même est un symbole de l'unité nationale. Il part du Katanga pour venir se jeter dans l'océan à travers le Bas-Congo. C'est pratiquement une ronde. Mais ce qui est le plus important, c'est que d'une manière ou d'une autre, dès que nous nous faisons respecter, ces gens, ils viendront. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin du climat, ils ont besoin de nos forêts. Alors, mais c'est à nous de dire, sommes-nous capables de mieux nous vendre? Est-ce que la République démocratique du Congo est bien vendue? C'est là la grande question. Et avec qui? Donc nous n'avons pas suffisamment de compétences affirmées que nous pouvons envoyer en négociation. Restez calme, parce qu'il y a généralement des gens qui, pendant les grandes négociations, ils vont se mettre dans le marché, acheter des habits à gauche, à droite, alors qu'ils sont allés pour des négociations. Ils subissent des documents. Dans la plupart des cas, avec les Congolais, c'est ça.
Merci, Médard Mbouyal-Mangal. C'est avec vous que nous passons à notre deuxième thème. 2000 agents de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, SNCC en sigle, seront mis en retraite. C'est le résultat des discussions à Lubumbashi entre les comités de gestion de cette société et la délégation syndicale. Ces agents de la SNCC devront se contenter seulement des allocations uniques des retraites, mais pas des décomptes finales. C'est l'aboutissement des négociations entre les deux parties, négociations qui ont duré plus de 2 semaines. Les détails avec Daniel Tambinzoni.
chaude discussion autour de l'article 62 de la convention collective. À part les allocations uniques de retraite, l'employeur ne peut pas payer les décomptes finales et les arriérés. Non, réplique le syndicaliste, en cas de départ définitif d'un agent, l'employeur est tenu de tout payer. Et si le solde de tout compte n'a pas été payé, il faut payer les indemnités d'attente. Or, la SNCC a estimé qu'avec 20 millions de dollars américains que la Banque mondiale a alloués, elle ne sera pas en mesure de payer les soldes de tout compte à 2200 employés, mais seulement les allocations uniques de retraite. La partie syndicale a suspendu pendant un long moment les discussions, le temps de se concerter à huis clos finalement. Les deux parties ont convenu de suspendre l'article 62, ce qui fait que les décomptes et les arriérés ne seront pas payés. Les candidats à la retraite sont des femmes ayant dépassé 60 ans et des hommes au-delà de 65 ans.
Pour sa part, le président de la délégation syndicale de cette société, Kumba Ilunga, affirme que les retraités qui n'avaient pas bénéficié des avantages maison recevront 12 mois d'arriéré de salaire. Il assure que les droits des cheminots partants seront respectés. Fidèle Moussangou, peut-on qualifier ces compromis des compromis sans précédent?
Non. Je connais ce genre de compromis. Regardez les agents de l'ex-NBK. Les agents de la banque ici, BZCE, qu'est-ce qu'ils ont touché à la sortie quand on les a assignés? Aucun rond. Donc ici, nous avons une mauvaise habitude au Congo, c'est de mettre la charrue devant les bœufs. Avant de songer à la mise à la retraite d'une des milliers des agents, il faut négocier avec une banque pour toucher les droits. Quelqu'un qui a fait 30 ans dans une maison comme la SSC, qui a donné sa vie, il ne va pas quitter avec 10 000 dollars. Il faut lui dire, monsieur, vous aurez, par exemple, 150 000 dollars. Ensuite, vous aurez droit aux soins médicaux, vous et vos enfants, jusque au tout dernier, quand il aura atteint la majorité. Si vous avez des petits-enfants, non. Vos enfants, par exemple, ceux qui sont à l'université, nous allons prendre en charge les frais de scolarité, universitaire et de secondaire. Voilà comment on met quelqu'un à l'aise. Il quitte, il est content. Le montant qu'il a eu, ça peut lui permettre de commencer une ferme dans son village et de pouvoir manger et vivre à l'aise. Mais ici, parce que les autorités congolaises, les autorités de mon pays, ont ceci de particulier. Un goût immodéré vers la corruption et le détournement. Dans cette opération, il y a une note de détournement et de corruption. On l'a vu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais la SNCC, c'est le poumon du pays. C'est le chemin de fer qui relie beaucoup de provinces.
Mais qui connaît beaucoup de problèmes?
Parce que mal géré. Parce que ceux qui gèrent sont des détourneurs de fonds. Ce sont des gens qui fabriquent beaucoup de... Ce sont eux-mêmes qui sont des fournisseurs de produits avec des prix multipliés par 15. C'est ça comme ça qu'on...
Ça n'est que vous, hein?
Non, mais j'ai des preuves, monsieur. Je peux vous dire une chose. Allez voir un peu dans les entreprises publiques ici. Vous allez voir un fournisseur, c'est la femme de l'ADG. Il fournit quoi? Des bibelots qu'elle a trouvés ici sur la ville du commerce chez les... Alors, le prix est de 20 dollars et elle met à 5 ans parce que le mari va pousser. Elle sera payée. Voilà comment on appauvrit, comment on vide les recettes d'une entreprise. Et finalement, l'entreprise n'est plus en mesure de satisfaire les charges sociales d'entreprise. À la fin, elle tombe en panne. La SNCC, on a mis Patrick Classe, dès qu'il a voulu bloquer les trous à travers lesquels les Congolais volaient l'entreprise, il a été menacé de mort. Pourquoi? Parce qu'il a empêché les gens de manger et au détriment des agents. 2000 agents, autre chose aussi, vous allez voir ce qui va se passer. On va même faire partir des gens qui ne sont pas encore arrivés à l'âge de la retraite. On se voit, c'est fini. Il y aura beaucoup de mécontents et beaucoup d'injustices. C'est comme dans mon pays.
Merci. C'est quand même étonnant que les agents acceptent d'aller à la retraite sans bénéficier de certains de leurs droits, notamment des comptes finales, Mouyal Mangal. N'est-ce pas que c'est étonnant?
C'est véritablement étonnant parce que la question, je continue à le répéter, la question de la sécurité sociale n'a jamais été réglée en République démocratique du Congo depuis 50 ans d'indépendance bientôt. Donc c'est de ce côté, il y a beaucoup de failles. Alors c'est des questions aussi importantes pour des gens qui ont consacré l'essentiel de leur vie dans une entreprise et aujourd'hui ils vont se retrouver, après avoir travaillé, ils vont se retrouver chômés, ils vont se retrouver pauvres. Alors que l'entreprise a créé des richesses, mais ceux qui ont participé à la création des richesses se sont appauvris et ils vont continuer à s'appauvrir. Voilà un danger qui menace tout le monde. Et finalement, c'est la réalité au niveau de toutes les entreprises congolaises.
Jean Dombassi, pensez-vous que les agents de la SNCC avaient d'autres choix que celui d'accepter ces propositions?
Moi, j'ai pensé à la délégation syndicale. La délégation syndicale a failli. La délégation syndicale a mal négocié les choses. C'est comme Mouyale vient de le dire là. Hein, des travailleurs qui ont consacré toute leur vie pour travailler pour la survie et des grandes entreprises doivent aujourd'hui partir comme ça sans décompte final. Je pense vraiment, c'est vraiment injuste et inacceptable. Et nous comprenons bel et bien que il y a un problème de code de sécurité sociale dans notre pays, la République démocratique. Je regrette pour tous ces travailleurs, mais la délégation syndicale a mal fait son travail et a mal joué son rôle.
Oui, Fidèle Moussangou, Jean Dombassi dit que la délégation syndicale a mal négocié. Et pensez-vous que vraiment cette délégation syndicale avait des préchoirs?
Non, regardez déjà pour la délégation syndicale. Voilà. Il y a des dispositions qui étaient introduites dans certaines, dans les statuts internes. Ça veut dire quoi? On appelle ça comment? Convention collective. C'est que la plupart d'entreprises publiques ont introduit dans la convention collective la présence du président de la délégation syndicale dans les comités de gestion. Avec droit de voiture, voyage à l'étranger, salaire mirobolant, 10 000 dollars, 15 000 dollars.
Ça veut dire qu'il est interrogé au comité des
gestion. Bon, il mange avec eux, alors quand quelqu'un mange, il ne parle plus. Et je connais encore des délégués syndicaux, chaque fois à la fin du mois, l'ADG les appelle, leur donne certaines enveloppes qui ne marchent pas du budget. Et certains même, on leur achète des voitures. Et vous allez voir, je peux vous citer même des cas, non? Les délégués syndicaux, dès qu'ils sont élus, eh bien, ils changent de style de vie. Souvent, ils bénéficient d'augmentation des grades. Et pourtant, ils sont plus là-bas. Et dès qu'ils changent, ils ont des voitures, ils s'attachent des maisons, voyagent en Europe, leurs enfants se posent sur la fête du sud, et leurs femmes. Vous voyez? Donc, on les corrompt. Parce qu'il est, il est incroyable que quelqu'un qui a passé sa vie pendant 30 ans, 40 ans à la CNCC, accepte de partir sans de continuer. Non! Ça veut dire que cette négociation a été le fruit d'une corruption.
Qu'est-ce que vous proposerez?
Mais moi, je propose seulement une simple chose, c'est de saisir une banque. Par exemple, la CNCC produit, génère des recettes importantes. C'est par millions de dollars, centaines de millions de dollars par an. Vous cherchez une banque, vous signez un accord, vous dites, monsieur, vous nous dégagez autant, nous allons désintéresser tous les agents. Par exemple, le taux de l'épreuve sur 50 000 dollars en espèces. Ensuite, ils ont des soins médicaux. Leurs enfants qui sont à l'école primaire, secondaire, universitaire sont pris en charge par cette banque jusqu'à la fin de leurs études. Mais cet homme va partir. Alors maintenant, la SNCC, si elle doit mettre en tête 2 000 et doit engager ou bien réduire le personnel pour devenir compétitive. Alors, dans les recettes, dans les bénéfices, une partie passe au remboursement. Ça peut faire un contrat de financement pour 25 ans. Les banques sont là pour ça. Mais la banque aussi participe au capital de la société comme actionnaire à travers des sociétés qu'elle va créer. Voilà comment on gère. Voilà comment les autres pays ont réglé ce problème. Mais ici, chez nous, c'est la délégation, le comité de gestion qui mange tellement gros qui ne parle plus et qui corrompt en même temps la délégation syndicale pour accepter une il s'agit d'un crime contre l'humanité.
Merci Fidèle Moussangou. Un dernier mot par rapport à ce thème Mouyal Mangal avant qu'on passe au troisième thème.
Dès lors qu'on a suffisamment des éléments que la délégation syndicale a été corrompue, je me dis il faut quitter ce niveau de négociation pour faire intervenir d'autres instances. Aujourd'hui, je fais par exemple allusion à l'intervention du ministre du Travail et de la Prévention sociale et toute l'inspection du travail. Il faudra que les choses bougent à Kinshasa, que le ministre du Travail et de la Prévention sociale descende à Lubumbashi pour sécuriser le travail. Dès lors que les travail ne sont plus sécurisés, il va falloir que d'autres instances interviennent dans le dossier. Sinon, il y a péril à la demeure.
Merci Mbouyal Mangal. C'est avec vous que nous passons à notre dernier thème de ce soir. clôture mercredi dernier à Kinshasa du symposium de la société civile congolaise. Ces travaux de 3 jours ont abouti à la mise en place d'un cadre de concertation entre les organisations de la société civile entre elles, la mise en place d'un cadre de dialogue sur les politiques nationales de développement avec l'État congolais et les partenaires au développement, et l'évaluation de l'aide publique au développement. Tels étaient les 3 objectifs assignés au symposium de la société civile congolaise. Une société civile jadis divisée, mais qui n'a plus intérêt à l'être si elle veut vraiment contribuer à la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. On écoute la présidente du comité préparatoire de ce symposium, Madame Chantal Kanimbo, au micro de Noëlla Luzito.
On parle d'une société civile. Elle est composée de toutes ces associations, de toutes ces organisations non gouvernementales qui se sont engagées dans une action citoyenne pour défendre les intérêts de la population et aider à améliorer les vécus quotidiens des citoyens. C'était aberrant à l'époque, malheureusement. C'est dans le contexte politique que nous avons eu à vivre ces genres d'aberrations, mais je pense que les organisations de la société civile aujourd'hui sont d'accord de constater que n'ont pas été efficaces et qu'elles veulent être efficaces dans la participation citoyenne de la gestion de la communauté dans l'intérêt de tout le monde. C'est pourquoi elles veulent se mettre ensemble et trouver un espace où elles pourront discuter, échanger dans les différentes thématiques où elles interviennent pour pouvoir participer effectivement et avec efficacité à la définition des politiques nationales sur le développement.
Jean Dombassi, vous êtes directeur de la radio communautaire de Mwanda au Bas-Congo. Peut-on encore parler de la société civile en République démocratique du Congo? Nous avons perdu Jean Dombassi. Je repose la question à Fidel Moussangou. Peut-on encore parler de la société civile en République démocratique du Congo?
Écoutez, la société civile actuellement est le refuge de ceux qui se préparent à devenir politiciens. On passe par là, on fait beaucoup de bruit dans les médias, et jusqu'au jour où on fait des avances de pied pour être dans l'AMP et devenir ministre sous l'étiquette d'indépendant.
Ça, c'est le contexte de la RDC.
La RDC, c'est comme ça. C'est depuis 60. C'est une tare congolaise. Je ne parle pas 60 parce qu'à la table ronde, il y a eu des délégués de la société civile. Mais quand ils sont revenus ici, ils ont choisi le camp. Ils étaient dans les camps de MNC, d'autres dans les camps de PNP. J'en connais, je peux te dire dons célèbres. Même j'ai des parents là-dedans. Mais, et puis, ils se sont comportés comme l'opposition au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat, même dans le ministère. À la conférence nationale, elle était forte, la société civile. Mais au sorti de la conférence nationale, beaucoup ont changé de camp. Ils se sont trouvés beaucoup plus SPC et d'autres beaucoup plus, ils sont des grands gueulards alimentés. C'était pire, la société civile. Maintenant, ça me dit, j'y étais. La société civile est sortie divisée. Donc, au Congo, c'est une étiquette, c'est un réservoir, c'est une blanchisserie pour devenir politicien. C'est pour se faire voir. Oui, alors je continue. Donc, la société civile n'existe pas. C'est un réservoir. Ce qui s'est passé à Centre-Gradin, je suis désolé. La présidente, c'est la présidente de l'UNPC, dont je fais partie. Le convocateur, c'est le président Mouboyaï, l'éditeur du Phare. Mais je leur avais dit, bon, c'est une occasion d'aller manger, d'avoir un perdiem. Tout ce qu'ils ont produit comme résolution, c'est des choses que nous connaissons. Ils n'ont pas réinventé la roue. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Qu'il faut des élections libres. Mais c'est une chanson que l'on chante depuis 60, depuis 59, depuis Lumumba. On ne fait qu'habiller. Bon, il y a eu de l'argent, perdiem, on a logé les gens, on a mis forage pour produire des résolutions que l'on connaît. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Merci, Mesdames Bouyal Mangal. Vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, KTNC en sigle. Même si Fidel Moussangou dit que la société civile est une étiquette, mais elle existe quand même. Elle existe, mais est-ce qu'elle joue effectivement son rôle?
La société civile en République démocratique du Congo est depuis bien longtemps une réalité. Exerce-t-elle son rôle? Maintenant, ça dépend du secteur dans lequel on intervient. Lorsqu'on intervient dans un secteur spécifique, on peut toujours s'interroger si on a de la capacité, si on a de la compétence à faire ce travail. Mais douter de l'existence de la société civile, je dirais non, ça, on ne peut plus douter de ça. Et moi-même, au-delà de ma fonction de journaliste, je vous rappelle que je suis coordonnateur du Festival culturel et artistique de Tshibala, dans la province du Kassai occidental.
Donc, membre de la société civile.
Membre de la société civile. À ce titre-là, je suis arrivé et je vais, d'ici le mois de juillet, organiser la deuxième édition de ce festival. Mais quand j'arrive, on me dit, le gouverneur, la dernière fois que le gouverneur de province a été là, ça date certainement de plus de 5 ans. Ça veut dire, aujourd'hui, là, dans mon espace, le moyen de transport le plus utilisé, c'est le vélo. Dès lors que le vélo est en panne, on est obligé de faire 200 km, 300 km à pied, on assiste à ce phénomène. Alors, si vous n'avez pas la capacité de crier, personne n'ira parce que les partis politiques, ils existent. Peut-être le niveau de la représentation est faible, mais il va falloir justement que la société civile puisse relayer là où le politique a présenté des faiblesses.
Est-ce qu'elle joue ses rôles?
Effectivement, regardez l'espace. Je vous donnerai l'espace qui vaut. Cet espace a aussi survécu des affres de la guerre, justement à cause de la société civile qui a eu le temps d'informer, d'alerter, un peu de crier fort ce qui était en train de se passer. Là où l'homme politique était déjà devenu affolé, mais la société civile a continué à crier.
Oui, on nous signale que la réalisation nous signale que nous avons perdu Jean Dombassi à cause des problèmes de liaison. Fidel Moussangou, à partir du moment où, c'est le cas d'ailleurs de la RDC, les personnes qui évoluent au sein de la société civile occupent non seulement des postes politiques, mais aussi sont membres des partis politiques. Est-ce que cela ne pose pas la problématique de la crédibilité de cette société civile?
Donc tout cela, c'est la cause de la misère. Le seul emploi qui existe maintenant, c'est la politique. Vous êtes député, vous avez 6 000 dollars, vous avez une Prado, sénateur, vous êtes ministre provincial, ministre, c'est ça le seul employeur. À part quelques sociétés de téléphonique, cellulaire, quelques sociétés pétrolières, c'est tout. Oui, les Libanais qui payent mal. Donc, les gens, c'est par la misère qu'ils se sont prostitués. Nous avons eu des cadres compétents, des éléments de valeur qui ont lancé le mouvement de la société civile au Congo. Mais au fur et à mesure que la situation s'est détériorée sur le plan social, eh bien, la misère, c'est ce que disait un militaire au fond, c'était le problème de l'indépendance centrale. Ça veut dire que, écoutez, vous pouvez beau envoyer, vous pouvez beau écrire, parce que de toute façon, la presse, moi je suis de la presse, c'est la presse, c'est la société civile. Mais à un moment donné, vous ne mangez pas vos bics, vous ne mangez pas vos micros, vous devez amener les enfants à l'école, la misère finit par vous tenailler et vous ramener chez le plus offrant, qui est le politicien. Je veux dire, c'est lui qui a le pouvoir. C'est comme ça que tous les grands ténors valeureux, je peux les citer, des grands messieurs, des grandes dames, se sont retrouvés dans la politique. Et là, on vous dit, monsieur, vous faites quoi? Vous voulez venir manger ici, à la table du roi? Signez là-bas. Et vous signez. Mais en coulisses, c'est des gens qui nous ont parfois des projets. C'est grâce à eux que nous sommes informés sous les contrats chinois. Parce que ils sont là, mais ils disent que le cœur est resté en société civile. Ça, c'est le portefeuille. Le cœur est resté en société civile. C'est ça la position. Et l'autre élément qui est là, c'est que il faut peut-être essayer de revoir la société civile sous un angle de développement. Et bien entendu, là où le Congo a gagné beaucoup,
a
gagné sous le plan de la dénonciation de la violation des droits d'homme, comme l'idée Médard.
Oui, Médard Mbouyal Mangal, on a pris assez de temps. Vous êtes aussi de la société civile. Mais où est passée cette société civile des années 90?
Non, ça veut dire que le contexte a changé. Les années 90, il n'y avait pas de démocratisation, il n'y avait pas d'élection. Ça veut dire qu'il y a une donne qui a changé, nous devons en tenir compte. Aujourd'hui, il y a un gouvernement, des institutions issues des élections. Alors, on n'est plus dans le contexte des contestations comme on était dans les années 90. Le maréchal qui venait de terminer son septennat du social sans rien faire, et il est obligé de ceci là. Donc le contexte a bien évolué. Il faut comprendre que la société civile a de la tâche aujourd'hui et la tâche a aussi évolué.
Merci, le contexte a évolué. C'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci à Willem Lungamba qui était à la technique et Kéline Kouté qui a réalisé pour vous cette émission. Sans oublier toute l'équipe de dialogue inter-congolais, Jean-Claude Toumba Kamanga, Alain Iroum, Samuel Kachak et Kéline Kouté. En leur nom, Guy Maté vous dit merci et vous souhaite un excellent week-end sur Radio Okapi.